même si la mer c'est de, même si la mer c'est de. Christ, alléluia. Parce que tu es avec nous.
Notre Dieu est au contrôle.
Merci.
Il est au contrôle de nos vies. Bien-aimés, même si l'impression te donne, l'impression que nous avons et que le Seigneur n'est plus au contrôle, mais j'aimerais te dire cet après-midi que l'Éternel est toujours sur son trône. Il règne sur son trône. Il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de ce qui te perturbe. Il est Dieu et sa force n'a pas changé. Sa force d'agir n'a pas changé. Il est capable. Il est capable. Dis-lui que Seigneur, je crois que tu es au contrôle. Par rapport à ce problème qui a duré des mois, par rapport à cette situation qui a duré des années, dis au Seigneur que je crois que tu es au contrôle. Élève ta voix. Bénis le Seigneur parce qu'il est Dieu. Nous te bénissons Seigneur car tu es Dieu. Car tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et demain. Seigneur, malgré la situation que nous traversons, malgré la situation que je traverse, qui a duré, Yahweh, je déclare et je confesse que tu es Dieu, que tu es au contrôle. Nous déclarons et nous confessons que tu es au contrôle. Que Seigneur, tu n'es pas incapable, tu n'es pas limité, tu n'es pas Seigneur, rien ne te limite. Tu es capable de guérir. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui transforme les situations. Le Dieu qui brise les chaînes. Les dieux, Seigneur, qui rend fertile celles qui n'enfantent pas, qui la rend féconde, capable d'enfanter plusieurs enfants. Tu es Dieu, c'est toi ce Dieu-là, et tu es au contrôle. Nous t'élevons pour ta toute puissance. La Bible nous dit que ta gloire est élevée au-dessus des cieux. Nous bénissons ta présence, nous bénissons ta capacité. Nous venons encore cet après-midi te dire que nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. Nous avons confiance en toi. En toi, nous plaçons notre confiance. Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie. À qui irions-nous? À qui irions-nous? À qui irions-nous? Si ce n'est à toi, Seigneur, nous nous courbons devant toi. Nous reconnaissons ta grandeur. Nous reconnaissons ta capacité toute puissance de faire les choses, de transformer nos situations. De transformer, Seigneur. Oh, le Dieu qui appelle même à l'existence les choses qui n'existent pas. C'est toi, Seigneur. Tu es capable de créer, d'appeler à l'existence la solution à mon problème. Tu es capable d'appeler à l'existence la solution au problème de ma soeur, au problème de mon frère, au problème de mon père, au problème de ma mère. Tu es capable, Seigneur. Oh, nous te bénissons, toi, le Dieu capable. Alléluia. Tu es capable, Seigneur.
Merci, Jésus, pour tous.
Oh, notre situation n'est pas trop grave pour toi. Oh, cette montagne paraît grande devant moi, mais devant toi, elle n'est rien du tout, Seigneur. Et nous te bénissons parce que c'est toi qui as plani les montagnes devant de nous. Alléluia. Tu es Dieu. Tu es au contrôle. Nous t'élevons. Nous t'exaltons, Seigneur. Ah, il n'y a que toi, Seigneur. Si ce n'est toi, Seigneur, nos vies n'ont pas de sens. Nos vies ne valent rien sans toi. Loin de toi, nos vies ne sont rien. Merci, Seigneur. Merci parce que tu nous assures de ta direction. Tu nous assures de ta présence à nos côtés. Tu nous assures que tu es le Dieu qui essuie nos larmes, qui sèche les larmes de nos cœurs. Nous te bénissons, Seigneur, car tu es ce Dieu-là, aimant. Tu nous aimes plus que n'importe qui. Tu nous aimes plus que n'importe qui. Merci pour ton amour vrai, pur, au point que tu t'es donné pour nous sauver. Alléluia. Bien-aimés, cet après-midi, j'aimerais nous inviter à faire une introspection de nos cœurs. La Bible nous encourage de pardonner. La prière que Christ a apprise à ses disciples, quelque part il est écrit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». Bien-aimés, si nous n'apprenons pas à pardonner ceux qui nous ont offensés, notre Seigneur ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Fais une introspection. À qui est-ce que tu n'as pas pardonné? À qui est-ce que tu as du mal à offrir ton pardon? Le pardon est une force qui libère. S'il y a quelqu'un dans ton cœur que tu as du mal à pardonner, le moment nous est accordé maintenant de pardonner à cette personne. Peu importe ce qu'elle a fait, la Bible nous encourage à pardonner. Et si tu n'arrives pas à pardonner, demande au Seigneur. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à pardonner. Je veux bien pardonner, mais je n'y arrive pas. Aide-moi à pardonner. Nous allons passer quelques minutes à libérer tous ceux qui sont en prison dans nos cœurs, tous ceux à qui nous n'arrivons pas à pardonner. Et c'est alors que la faveur de Dieu va descendre sur nous. C'est alors que Dieu nous pardonnera aussi. Et nous verrons, nous témoignerons de ce que le Seigneur accomplira au travers du pardon que nous accordons aux autres. Prions, bien-aimés. Seigneur, nous venons encore. Je viens devant toi, Seigneur. Oh Dieu, sonde mon cœur. Sonde nos cœurs. Sonde nos cœurs, Seigneur. Sonde nos cœurs. Seigneur, tu connais nos cœurs. Nous pouvons être habillés proprement de l'extérieur. Mais si dans nos cœurs, nous ne pardonnons pas, nous sommes sales devant toi. Si dans nos cœurs, nous n'arrivons pas à pardonner, Seigneur, nous sommes impurs. Nous ne sommes pas dignes que tu nous pardonnes aussi nos péchés. C'est pour ça que nous venons, Seigneur, te suppliant, Seigneur, de nous aider à pardonner. Aide-moi à pardonner ceux qui m'ont fait du mal. Aide mon frère, ma sœur à pardonner. Aide mon père, ma mère à pardonner. À libérer, Seigneur, toutes ces personnes qui nous ont fait du mal, auxquelles nous n'arrivons pas, Seigneur, à pardonner. Aide-nous, Saint-Esprit. Oh, que ta puissance agisse maintenant dans chacun de nos cœurs. Dans chacun de nos cœurs, Seigneur. Que ta puissance agisse, même dans les cœurs de nos frères qui sont en ligne. Que ta puissance agisse. Aide-nous à pardonner. Je veux pardonner. Je décide de pardonner. Je décide de pardonner. Je décide de libérer. De libérer ces personnes de mon cœur. Je décide de les libérer. De les libérer. Afin que le Seigneur me pardonne aussi. Afin que toi, Seigneur, tu me pardonnes aussi. Afin que ta faveur repose sur moi. Afin de voir ta gloire dans ma vie. Afin de voir tes bienfaits dans ma vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ton pardon. Merci pour ton pardon. Merci pour la force que tu nous accordes. Merci Seigneur. Oh Jésus, nous bénissons ton nom cet après-midi. Nous t'élévons, nous t'exaltons. Il n'y a point de Dieu comme toi. Alléluia. Merci. Merci Jésus. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Bien-aimés, nous allons confesser notre foi. Nous allons confesser avec assurance. Nous allons dire ensemble, je crois en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois en la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Merci Nouvelle Sémence pour ce temps de louange et d'adoration. Nous allons sans plus tarder passer à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous invitons notre pasteur Joshua afin qu'il puisse prier pour la parole et nous conduire dans ce moment. Alléluia.
Prions le Seigneur. Père Céleste, nous te disons merci parce que tu es Dieu. Tu es celui qui nous aime. Tu es celui qui veut nous parler à ce moment. Nous avons besoin, Seigneur, qu'à ton nom, tu acceptes que nous puissions recevoir la couverture du Saint-Esprit et que tout puisse se passer sous son organisation, sous sa direction, pour que nos cœurs puissent trouver de la place, de la bonne place pour ta parole, afin que celle-ci puisse féconder notre vie. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour à tous. Nous louons Dieu encore à ce moment parce que c'est lui qui vient de permettre que nous puissions être là à notre quatrième jour des enseignements sur les dons spirituels au sein de l'Église, leurs bienfaits et les défis qui y sont liés et que nous sommes appelés à relever. Hier, nous étions en train d'analyser les dons spirituels que nous avons rencontrés dans 1 Corinthiens chapitre 12, versets 8 à 11. Nous allons y revenir ensemble avec la lecture. 1 Corinthiens chapitre 12, cette fois-là, nous allons commencer au verset 8 et boucler la lecture avec le verset 11. La parole de Dieu nous dit, « En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre les dons de guérison par le même esprit, à un autre les dons d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il les veut. » Alors, nous avons eu assez de temps à parler de chacun de ces dons, à donner une brève explication sur ce qu'il faut entendre par chaque don, mais aussi en précisant comment ça fonctionne dans la vie de l'Église. Alors, nous avons dit que nous allons commencer maintenant à parler des caractéristiques. Après avoir parlé du don d'interprétation des langues et les dons de parler en langue, nous avons annoncé que nous allons commencer avec les caractéristiques d'une personne susceptible de recevoir les dons spirituels et capable de les utiliser selon la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, nous avons donné des conditions qui feraient que quelqu'un qui a le désir de recevoir les dons de Dieu, les dons spirituels, ce qu'il peut remplir comme condition pour les recevoir. Et là, si vous allez vous rappeler, nous avons dit, en partant du verset 1 du chapitre 12 de 1 Corinthiens, là où c'est dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Parle des dons spirituels, mais nous avons accroché notre attention sur les mots spirituels qui vient après don, et nous avons montré que ces mots-là, qui vient du concept de pneumatikos en grec, a l'essence d'une aptitude spirituelle qui vient de Dieu et qui devient une partie intégrante de la vie d'un croyant qui est né de nouveau lorsqu'il se confie à Dieu et lorsque Dieu veut l'utiliser pour accomplir une mission spécifique à un moment particulier dans la vie de l'Église. Alors, cela veut dire qu'il n'est pas possible que quelqu'un puisse recevoir les dons spirituels s'il n'a pas rempli les conditions ci-après. Et je le disais souvent que nous allons y retourner plusieurs fois, et la première condition, c'est le fait de naître de nouveau. Ce que Nicodème a rencontré chez Jésus lorsqu'il est allé chez lui de nuit, et Jésus lui dit, « Ne t'étonne pas si je te dis qu'il vous faut naître de nouveau. » Ça, c'est la première condition. C'est-à-dire, ça ne fonctionne pas comme une intervention qui vient de Dieu, par l'Esprit de Dieu, s'il s'agit de quelqu'un qui s'appelle chrétien, mais qui n'a jamais été né de nouveau. La deuxième condition, ce doit être une personne qui se met entièrement à la disposition de Dieu et qui se confie à Dieu avec le désir de le servir comme un instrument que Dieu utilise entre ses mains. Nous devons être là, disposés. Nous nous laissons à la disposition de Dieu pour que Dieu nous utilise comme un instrument entre ses mains. Troisième condition, il doit avoir un niveau de consécration acceptable spirituellement, ce qui fait qu'il soit capable de participer à la nature de Dieu. Et nous avons lu ça dans Pierre. Nous avons ensuite dit que ce doit être quelqu'un qui fait tout, qui veille à ce que, lorsqu'il s'approche de Dieu, comme il sait qu'en s'approchant de Dieu, le diable s'approche aussi de nous pour nous faire du mal, pour faire que la mission que le Seigneur nous donne puisse échouer en nous tendant des pièges dans lesquels, si nous y tombons, alors il nous manipule, tout en étant dans la présence de Dieu. Et là, nous avons donné l'exemple de Jésus lorsqu'il était en voyage, il arrive aux environs de Samarie. Et lorsqu'il est là, la Bible nous dit qu'il manque où aller loger. Parce que les gens de la ville ne veulent pas les recevoir. Alors, il y a Jean et Jacques qui sont des apôtres de Jésus, qui ont une bonne réputation même dans les sillages des apôtres, mais qui sont visités par le diable alors qu'ils sont dans la présence même de Jésus. Et ils disent à Jésus, « Seigneur, est-ce que tu permets que nous puissions demander à Dieu de descendre le feu pour consumer ceux-là qui sont en train de faire de la blague avec toi ?» Et Jésus de répondre, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. » Amen. Amen. Donc, nous devons savoir que lorsque nous nous approchons de Dieu, le diable s'approche de nous. Il nous met de pièges pour que nous puissions y tomber et que la mission puisse tomber en moule. Parce qu'il s'était basé sur ce qui s'était passé à Carmel avec le prophète Élie, qui a demandé le feu et le feu est descendu. Les mêmes dieux que eux servaient au travers de Jésus, ils savaient qu'ils peuvent faire descendre le feu. Mais Élie avait une parole spéciale, un réma spécial qui lui disait « Toi, tu vas faire descendre le feu ». Mais cette parole ne s'adressait pas à Jean et à Jacques. Eux, ils veulent demander à Dieu le feu, alors que Dieu n'a pas prévu de leur donner le feu. Il n'a même pas parlé à eux par rapport au feu. Et c'est Jésus qui dit non. Cool down, parce que ça, ce n'est pas donné à vous. D'ailleurs, là, maintenant, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Ça veut dire que le diable n'a pas peur de s'approcher de nous, même lorsque nous nous approchons de Dieu. Parce qu'il n'a même pas peur de s'approcher de Dieu même seul quand nous ne sommes pas là. La Bible nous dit qu'il s'est approché de Dieu un jour et Dieu lui dit, « Est-ce que tu as vu mon serviteur ?» Qui ? Job. Et il dit, « Je l'ai vu. » Mais alors il commence à l'accuser. Alors ce n'est pas étonnant que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, lui aussi vient. Mais ici, l'objectif, ce n'est pas de nous accuser. Parce que peut-être il sait que l'accusation ne va pas tenir comme ça n'a pas tenu à la fois avec Job. Et il dit, alors il faut que je le tente des pièges pour qu'il y tombe. S'il y tombe, alors ça va ça va faire que je puisse les utiliser. Jésus les sauve et il dit, ce n'est pas de ça qu'il va s'agir. La dernière condition, c'est que si cette personne, c'est vraiment une personne qui veille sur sa vie de sanctification. Sa vie de sanctification. Parce qu'en fait, vous allez voir dans Hébreux chapitre 12, verset 14, la parole de Dieu nous dit, recherchez la paix avec tous, et quoi? Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Alors donc, vous ne pouvez pas voir Dieu et vous ne pouvez pas voir ce que Dieu veut accomplir dans votre vie d'une manière surnaturelle si vous ne veillez pas à votre vie de sanctification. Alors, maintenant parlons des qualités. Il a rempli les conditions, mais il faut qu'il ait des qualités. Parce que les qualités ici vont servir des signes qui permettent de s'identifier comme quelqu'un qui est éligible pour recevoir les dons spirituels de Dieu. Amen. Amen. Alors, je veux dire que ces qualités ont comme fondement le principe de Jésus-Christ qu'il avait toujours l'habitude d'utiliser avec tous ceux-là qu'il a rencontrés et qui étaient dans les besoins de voir Christ intervenir dans leur vie de manière surnaturelle. Le principe, c'est qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Amen. Répétons ensemble, qu'il te soit fait selon ta foi. Qu'il te soit fait selon ta foi. C'est ça le principe fondamental. C'est ça le principe fondateur pour les qualités qui nous rendent éligibles à être utilisés par le Seigneur en nous donnant les dons spirituels. Qu'il te soit fait selon ta foi. Ceci doit toujours amener chacun d'entre nous de se poser la question, qu'est-ce que je crois dans mon cœur? Qu'est-ce que je crois dans mon cœur? Ça parce que ce que vous croyez détermine ce que vous allez recevoir. Amen. Amen. Ce que je crois détermine ce que je vais recevoir. Ce que le monde spirituel prépare pour moi est mobilisé et activé par ce que moi je crois. Et c'est ce qui fera que le monde spirituel soit incité à réaliser des choses dans le monde naturel où je suis en train de vivre. Amen. Et c'est sur base de ces principes qu'une personne ne peut recevoir que ce qu'il croit et ce qu'il déclare. Faites attention, parce que dans le monde spirituel, à l'étape où nous sommes, nous voulons comprendre, nous tous ensemble, que la parole, la déclaration a une puissance sur notre vie et sur ceux-là qui nous écoutent. Mais cette déclaration doit venir de ce qui est rempli de notre cœur. Parce qu'en fait, la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce qui est dans mon cœur, c'est ce qui va sortir de ma bouche. Et si ce que je crois qui va sortir dans mes déclarations, c'est ce que le Seigneur attend que je puisse croire, alors il va faire pour moi ce que je crois. Et le principe va se réaliser dans ma vie, qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça va être une réalité, alors que c'était d'abord quelque chose à laquelle je crois dans mon cœur. Ce n'était pas visible, ce n'était pas matériel, mais ça va se matérialiser. Alors, laissez-moi vous demander d'aller avec moi dans Matthieu chapitre 8, versets 5 à 10. Matthieu 8, 5 à 10. Allons-y ensemble pour que nous puissions comprendre ce qui est en train de se dire par rapport à ce que nous croyons. qui va déterminer ce que nous recevrons. Le chapitre 8, verset 5. Comme Jésus entrait à Capernaüm, un centenier l'aborda, le priant en disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il est fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et dit à ceux qui le suivaient, « Je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. » Allons à 13. Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, les serviteurs fut comment ? Fut guéri. Alors, ça, c'est un texte fondateur pour ce que nous voulons exprimer aujourd'hui. Votre foi, ma foi, est d'une grande contribution pour que le Seigneur me trouve éligible à être utilisé lorsqu'il distribue ses dons spirituels. Parce que il nous sera toujours fait ce que nous croyons. Amen. Amen. Alors, c'est la même chose avec la femme qui était malade de perte de sang, 12 ans d'Iran. La parole de Dieu nous dit, dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, que cette femme souffrait beaucoup, avait déjà perdu toute sa fortune, tous ses investissements, en allant ça et là, en train de chercher des médecins. Elle avait déjà tout perdu parce qu'elle voulait être guérie. Et la Bible dit qu'un jour, elle a entendu parler de Jésus-Christ. Quand elle a entendu parler de lui, elle s'est dit dans son cœur, « Si seulement je peux toucher les bords de son vêtement, je serai guéri. » C'est ce qu'elle croyait. C'est ce qu'elle avait dans son cœur. « Si seulement je peux croire, je peux toucher son vêtement, je vais être guéri. » La Bible dit que Jésus était entouré par une grande foule. Elle se faufila et elle alla toucher seulement les bords du vêtement de Jésus. À l'instant même, elle se retrouva guérie. Son mal la quitta. Et Jésus constata qu'il y a une force qui l'a quittée pour aller quelque part, faire quelque chose de surnaturel dans la vie d'une personne, parce qu'une personne a cru. Jésus se retourne et dit, « Quelqu'un m'a touché. » Ceux qui étaient dans la ceinture de sécurité de Jésus, ce sont les apôtres qui disent, mais toi aussi quand même, tu vois que tu es entouré par beaucoup de monde et tu oses même dire quelqu'un m'a touché. Tu ne vois pas que tout le monde te touche. Il dit, ce n'est pas de ça que je parle. Il y a quelqu'un qui m'a touché parce que j'ai senti une force me quitter pour aller vers cette personne-là. Avec cette précision, la dame commence à trembler. Et dit, alors si je n'avoue pas, peut-être quelque chose de mal peut m'arriver. Elle va se prosterner devant Jésus et elle dit, c'est moi, j'étais touchée. Et Jésus de dire, ta foi t'a fait quoi? T'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Vous allez constater que dans beaucoup de miracles qui se sont réalisés avec des personnes qui ont eu besoin d'être touchées de manière surnaturelle par le Christ, ils ont eu la même réponse. C'est la même chose avec Bartimée. Dans Marc chapitre 10, verset 46 à 52, où il crie, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus se retourne pour dire, « Qu'est-ce qu'il y a? Amenez-les. » Mais avant qu'il dise « Amenez-les », les disciples encore se retournent contre Bartimée. « Toi, tu déranges. » Il dit, « Non, moi, je sais ce que je cherche. » Mais quand Jésus dit « Amenez-les », ce sont les disciples, les apôtres qui sont les premiers à se retourner pour aller dire, il t'appelle, prends courage, viens. À quelques secondes près, ils ont dit, ne nous dérange pas. Quelques temps après, ils disent Anakuita Kuja. Vous voyez la versatilité des disciples. Il y a des choses que nous ne devons pas imiter chez les disciples, mais plutôt imiter dans l'entourage de ceux-là qui étaient même dans la ceinture plus loin oubliés, mais qui ont été au bénéfice de la grâce de Dieu d'une manière surnaturelle. Ces messieurs-là, ils arrivent et Jésus dit, « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ?» Il dit, « Que je recouvre la vie. » Et Jésus dit, « Va, ta foi t'a fait quoi ? T'a sauvé. » Il est question de la foi. Parce que tout ce monde ici, ils avaient quelque chose qu'ils avaient cru. Il y avait quelque chose qui s'est passé dans leur cœur. Le dernier exemple, c'est la femme cananéenne qui arrive devant Jésus avec un enfant, une fille tourmentée par un démon. Et elle dit, « Seigneur, aie pitié de moi, vole à mon secours. » Et les disciples disent, « Cette fois, est-ce que tu peux avoir pitié d'elle ?» Et Jésus dit, « Mais je ne suis pas venu pour les païens. » Et alors Jésus va dire poliment à la femme, « Je regrette, madame, je ne suis pas venu pour jeter la nourriture des enfants à qui ? Aux chiens. » Mais la détermination et la foi de la dame la pousse à dire, « Seigneur, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. » Et Jésus dit, « Ah, en Israël, je n'ai jamais vu une foi comparable à celle-ci. » Et il dit, « Qu'il te soit fait selon ce que tu veux. » Amen. Alors donc, je vais me limiter là. Mais partout là, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur de celui qui a besoin de la grâce de Dieu. La femme, si je touche seulement, je serai guéri. Les militaires, les centeniers, il dit, si il dit seulement un mot, mon serviteur sera comment ? Sera guéri. Bartimée, si je lui dis de m'aider seulement, si je lui dis je veux recouvrir la vue, je serai guéri. Et la femme cananéenne, je sais qu'il a le pouvoir de me sauver, de me venir au secours, de guérir mon enfant. Je sais. Même s'il me traite de petit chien, mais je sais qu'il a le pouvoir de guérir ma fille. Je sais. Je crois. Alors, mes frères et sœurs, c'est cardinal que nous puissions chacun de nous se poser la question, qu'est-ce que je crois dans mon cœur qui peut stimuler l'intervention de Dieu? C'est ce qui est dans mon cœur que je crois, qui incite Dieu à agir, qui incite le monde spirituel à intervenir de manière surnaturelle dans ma vie naturelle. Et là, je vais être au bénéfice de la grâce surnaturelle de Dieu. Mais il y a une chose que je voudrais que vous puissiez découvrir avec moi dans Luc chapitre 18, verset 8. Luc chapitre 18, verset 8. Luc 18, verset 8. Parce que c'est là le problème sur lequel nous devons réfléchir. Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est la parabole du juge unique. Les juges dont Jésus a parlé lorsqu'il voulait montrer l'importance de toujours prier et de prier avec foi. Il donne là l'exemple d'une femme qui était désespérée, qui allait chez les juges pour lui demander de lui faire justice. Et les juges n'étaient pas prêts à le faire. Et la Bible est de dire, la femme a importuné les juges. Il l'a embêtée. Elle venait à chaque moment, chaque jour, chaque matin, chaque soir. Fais-moi justice. Et la Bible est de dire, les juges, à cause d'être embêtés, ils décida d'accorder ce que la femme veuve voulait. Et Jésus de dire, si quelqu'un d'impur, d'inique, un pécheur, peut répondre à un besoin parce que une personne l'a importuné, à combien plus forte raison le Seigneur, notre Dieu. Alors, dans la suite maintenant là, il souligne l'importance de la foi. Et alors, il dit, mais je ne sais pas, Parce que c'est ce qu'on doit avoir. Mais je m'en doute. Je ne sais pas si lorsque le Fils de l'homme viendra, il trouvera encore la foi sur la terre. Ce n'est pas que la foi doit être semée dans la terre pour produire des fruits. C'est moi qui suis sur la terre. C'est en moi que le Seigneur veut voir, veut trouver cette foi lorsqu'il est en train de visiter ceux-là à qui il veut faire grâce. Amen. Alors donc, nous avons besoin d'avoir la foi. Nous avons besoin d'avoir la foi pour que le Seigneur intervienne. Nous avons parlé du don de foi. Et dans ce chapitre-là, nous avons parlé de la foi sous quatre formes. Au troisième niveau, après la foi qui sauve, après la foi qui est la doctrine chrétienne, nous avons parlé de la foi qui est fondée sur le logos. Lorsque nous acceptons la parole de Dieu que nous lisons ou que nous écoutons, nous nous sentons bénis parce que nous l'avons acceptée et ça fait partie intégrante de notre vie parce que nous en faisons une norme de foi et de conduite dans notre vie chrétienne. C'est à ce niveau-là que nous avons besoin de croire. Et le Seigneur a besoin de nous trouver avec cette foi-là, cette disposition à recevoir la parole, les instructions du Seigneur. Alors, nous devons croire quoi? La première chose qu'il faut croire, c'est que moi, parce que je suis né de nouveau, que toi, si tu es né de nouveau, c'est de croire en l'amour de Dieu. De croire en l'amour de Dieu. De croire que Dieu m'aime. De croire que Dieu t'aime par un amour hors du commun. Amen. Amen. Nous savons que Dieu nous aime. Mais nous devons réaffirmer notre foi en l'amour de Dieu. Et je vais expliquer pourquoi. Vous savez, nous sommes habitués au texte de Jean chapitre 3, verset 16. Récitons ensemble. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Car Dieu a fait quoi? A aimé le monde. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit « a tant aimé le monde ». La Bible n'a pas dit « a aimé le monde ». La Bible dit « a tant aimé le monde ». C'est un accent que la Bible met sur l'amour de Dieu. L'amour de Dieu n'est pas d'ailleurs ce que tu penses être l'amour de Dieu. C'est un amour hors du commun. Nous allons expliquer pourquoi nous disons ça. Parce qu'en fait, le terme grec qui est traduit par « aimer », c'est « agapeo ». Et laissez-moi un peu vous expliquer ce que j'ai trouvé comme signification de ces mots-là. C'est « agapeo », « aimer ». C'est vraiment « aimer ». C'est manifester une affection qui vient du fond du cœur. Pour une personne qu'on considère comme très précieuse à cause de sa grande valeur. Et une valeur que la personne n'avait pas avant, mais une valeur qui lui a été conférée à un certain moment donné dans sa vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez ça? Une affection exagérée. Pour qui vient du fond du cœur, pour une personne considérée comme très précieuse à cause de sa valeur, de sa grande valeur, mais une valeur qui lui a été conférée, pas qu'il a toujours eu cette valeur-là, c'est une valeur qui lui a été conférée. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça l'amour que Dieu a exercé sur toi. C'est ça l'affection qu'il a pour toi. On peut ne pas comprendre. Mais ça vaut la peine de laisser l'Esprit de Dieu nous convaincre de ça. Parce que c'est extraordinaire. C'est supranaturel. Un amour qui me donne de la valeur. Imaginez votre valeur. Et la valeur que vous avez toujours, vous êtes toujours donnée, ce n'est pas cette valeur dont il est question ici. Ce n'est pas cette valeur. Parce que tout le monde se donne la valeur. J'ai dit quelque part, parce qu'en fait, si un homme qui a épousé une femme vit avec cette femme en considérant sa valeur, il ne saura pas vivre avec cette femme. Si une femme qui a été épousée par un homme considère sa valeur, il ne pourra pas vivre avec son mari. Est-ce que vous me saisissez? Et vous ne saisissez pas, alors là je passe. Vous avez une certaine valeur, mais devant Dieu ce n'est pas une valeur.
c'est rien, c'est néant. Il a fallu que Dieu te donne une valeur pour qu'il accepte tout ce qu'il a accepté pour toi et pour moi. Amen. Amen. Et ce n'est pas une valeur donnable par une personne. Ce n'est pas une valeur qu'un homme peut donner. C'est seulement Dieu qui la donne. Et cette valeur se manifeste dans ce qui a été dit comme ça. Dieu a donné Jésus pour toi. Et la Bible dit, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans ce verset, la Bible dit, s'il a donné son propre fils, alors que c'est ça, tout ce qu'il avait comme trésor, qu'est-ce qu'il peut ne plus vous donner après vous avoir donné Jésus? Vous vous souvenez de ce verset? Tout ce qu'il a, c'est Jésus. Il n'a pas autre chose. Il peut chasser tous les anges qui se comportent mal, ça ne lui dit rien. Il peut perdre tous les anges dans son royaume, mais il ne peut pas accepter de perdre Jésus. Mais alors, à cause de moi, à cause de toi, il accepte de tout perdre, de perdre Jésus. Quelle est la valeur que toi, tu penses qu'il t'a accordée? Amen. Amen. Alors, c'est cette valeur-là qu'il considère quand il dit que toi, tu es précieux dans ses yeux. Dis-toi à moi, je suis précieux. Je suis précieux aux yeux de Dieu. Il faut croire que tu es précieux devant les yeux de Dieu. C'est ça, croire en l'amour de Dieu. Parce qu'à cause de cet état précieux, Jésus se mobilise, lui-même accepte. Parce que Dieu a vu que tu es précieux et il négocie avec Jésus. Est-ce que tu peux aller les sauver? Jésus aussi accepte parce que tu es précieux. Et aux yeux de Dieu, et aux yeux de Jésus, et aux yeux du Saint-Esprit, il accepte de quitter le ciel. Imaginez la gloire qu'il avait. Imaginez la majesté qu'il revêtait. Imaginez la puissance, la toute-puissance. Imaginez tout ce qu'il a. Il accepte de laisser et il ôte même sa nature de Dieu. C'est Philippiens chapitre 2 qui va nous parler de ça. Il n'a pas regardé le fait d'être Dieu comme une proie à faire quoi? À arracher. Et il a accepté d'ôter sa divinité. Il vient au monde avec ce que cela représente comme misère. Et d'ailleurs, la Bible commence avec une histoire de misère. Lorsque Jésus arrive, il est né, et les berceaux dans lesquels on lui met, c'est quoi? Une mangeoire. Il est né où? Dans une étable, dans une maison de vaches. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'étable. Ce n'est pas propre, même si on lave, même si on arrose, même si on balaye. Il y a toujours l'odeur. Il n'y a personne qui peut accepter d'aller accoucher dans une étable ici. Personne. Mais c'est là que le Christ a accepté d'aller. À cause de qui? À cause de moi, parce que je suis très précieux. Très précieux devant Dieu. Amen. Il quitte le ciel, il vient pour moi. Il ôte sa divinité pour moi. Il accepte d'aller naître dans de mauvaises conditions à cause de moi. Au moment où nous acceptons de croire en l'amour de Dieu, cette affection extraordinaire qu'il nous manifeste, qu'il me manifeste, ça transforme ma vie. Je vais commencer à me considérer différemment de ce que j'ai toujours considéré que je suis. Amen. Et c'est ce changement de considération de moi-même qui transforme ma vie. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que nous comprenons comme vraiment ça doit être compris? Changez de considération de vous-même. La valeur que vous vous donnez, ça n'en est pas une. Il y a une valeur que le Seigneur nous a donnée et il veut que nous puissions nous regarder avec cette nouvelle valeur. Nous sommes très précieux, tellement que Jésus se trouve obligé de doter sa divinité, de venir pour moi et pour toi. Je vaux combien? Quelle est ma valeur? Je suis très précieux. Regardez-vous comme très précieux. Amen. Amen. Lorsque nous croyons à ça, nous attirons le Seigneur vers nous. Nous nous approchons du Seigneur, nous prenons la nature du Seigneur et il est prêt à nous s'approcher de nous et de commencer à réaliser de grandes choses. C'est avec cela que nous allons comprendre que parce que nous sommes précieux, Nous sommes capables d'expérimenter ce que 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 dit. Rendez grâce en quoi? En quoi? En toutes choses, parce que c'est ça la volonté de Dieu pour vous. Vous savez pourquoi nous avons difficile à rendre grâce en toutes choses? Parce que nous ne nous considérons pas comme Dieu nous considère. Parce que même les difficultés dans lesquelles nous passons, c'est dans les plans de Dieu. Amen. C'est dans les plans de Dieu. Ça fait partie du feu par lequel le Seigneur peut nous faire passer pour nous rendre beaucoup plus purs, comme l'or. Amen. Amen. Alors, si nous avons cette vision, en sachant que nous sommes précieux aux yeux de Dieu, et que Dieu est en train de nous purifier en nous faisant passer par le feu, ce sont là les situations compliquées par lesquelles nous passons. Nous savons que nous y sommes, mais entre les mains sûres du Seigneur pour nous protéger. Amen. Et avec ça, nous pouvons avoir le sens, un sens surnaturel de commencer à dire à Dieu, merci Seigneur, même si je suis dans des difficultés, merci pour ça. Nous n'avons pas l'habitude de dire merci à Dieu lorsque nous sommes dans des problèmes parce que nous ne considérons pas combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Nos yeux nous trompent, nos yeux ne savent pas voir combien précieux nous sommes devant Dieu. Alors, choisissons, faisons les choix entre ce que notre nature nous dit et ce que l'Esprit de Dieu nous dit. L'Esprit de Dieu veut nous communiquer une connaissance pour que nous sachions que nous sommes précieux devant Dieu. Je suis précieux devant Dieu. Tu es précieux devant Dieu. Elle est précieux devant Dieu. Nous sommes précieux devant Dieu. Vous êtes précieux devant Dieu. Amen. Amen. Alors, si vous commencez à avoir les yeux de Dieu pour vous voir vous-même, si vous commencez à porter les lunettes de Dieu pour voir ce que vous êtes devant Dieu, vous allez commencer à vous reconsidérer. Amen. Vous devez commencer à vous reconsidérer, pas avec la considération charnelle que vous avez de vous-même, mais avec la considération spirituelle que Dieu a de vous-même. Amen. Amen. Et à ce moment-là, malgré les difficultés, vous allez commencer à dire merci Dieu. Que les MV3 descendent, le premier réflexe, disons merci Dieu. Avant de trembler, disons merci Dieu. Tremblons après. Merci Dieu parce que les MV3 vont descendre. Je vais vous dire une chose. Cela réduit même les degrés de lamentation dans notre vie. Parce que nous nous lamentons souvent lorsque ça va mal, n'est-ce pas? Et c'est souvent lorsque ça va mal, nous nous lamentons contre Dieu. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait pour que je sois comme ça? Seigneur, les degrés de lamentation diminuent parce que je sais que Dieu frayera une voie là où une voie paraît ne pas exister. Mungu atatengeneza njia mahali pasipokuwa njia. Parce que je suis précieux, il s'obligera de faire ça. Pour moi, parce que je suis précieux. Si j'étais rien, bourré, il pouvait s'en foutre. Mais je ne suis pas rien devant Dieu. Je suis très précieux. Dites, je suis très précieux. C'est en déclarant que cela s'enracine. Dites à l'autre qui est à côté de vous, moi je suis très précieux. Même si l'autre ne voit pas, mais Dieu voit. Commençons à déclarer ce que Dieu voit au lieu de commencer à déclarer ce que notre nature faible voit en nous. Amen. Commençons à déclarer ce que Dieu voit en nous. Portons les lunettes de Dieu pour commencer à nous identifier et non pas toujours nous voir avec la nature très faible qui nous dit que nous sommes rien. Attention. Mais il y a d'autres souffrances, d'autres moments difficiles par lesquels nous passons parce que ce sont des personnes qui nous font comme ça. Mais lorsque nous avons appris à diminuer la lamentation, les lamentations dans notre vie, parce que nous nous considérons précieux comme Dieu nous considère, alors Dieu va accomplir des miracles. Vous savez, il y a des moments où on se dit, on va commencer à dire merci lorsque les choses vont mal. Mais quand je vois que c'est elle qui a fait que je sente le mal là, je dis, ah, comment je vais remercier avec cet ennemi ici? Est-ce que vous saisissez? Quand c'est un enfant avec qui vous vivez à la maison, qui te cause des problèmes, tu peux avoir difficile à dire merci à Dieu. Parce que tu vas dire, si je dis merci à Dieu, comment je vais le corriger? Si c'est ton argent qui te cause de la peine, tu risques d'avoir difficile à dire merci à Dieu quand les choses vont mal. Mais je vais vous apprendre une chose. Nous disons merci à Dieu parce que Dieu a dit à moi la vengeance. Laissez les gens nous tourmenter. Laisse des personnes se retourner contre toi pour te faire du mal. Accepte que les gens fomentent tout ce qu'ils veulent fomenter contre toi. Mais le Seigneur a dit en Zacharie, chapitre 2, verset 8, « C'est lui qui vous touche, fait quoi ? Touche à la prunelle de son œil. » Alors ici, c'est compliqué un peu. Parce que Zacharie dit, « Car le Seigneur a dit, c'est lui qui vous touche, touche à la prunelle de son œil. » Alors, la prunelle de son œil, c'est l'œil de qui ? Alors, l'interprétation double est permise là-bas. Soit c'est la prunelle de l'œil de Dieu. Est-ce que vous savez ce que ça fait si quelqu'un... C'est parce que... Mwenyana kushota kidole, iko naenda mudireksyo ya jesho yako na kigusa jicho yako amesha kukuparalize. Et il n'y a personne qui veut qu'on puisse toucher son œil pour le paralyser. On va se jouer de lui comme on veut. C'est comme on s'est joué de qui? Après avoir arraché les yeux. Samson s'est joué de lui parce qu'on lui a arraché l'organe la plus précieuse pour qu'il soit libre de se mouvoir. Alors Dieu dit, si c'est la prunelle de Dieu, ça va bien. Laissez quelqu'un qui vous touche toucher la prunelle de Dieu et qu'il attende la réaction de Dieu. À cause de ça, laissez la réaction à Dieu et vous dites, merci Seigneur parce que tu vois tout ça et toi tu vas frayer le chemin par lequel je vais passer. Je sais que ça ne va pas m'engloutir. Je m'en sortirai par la grâce, par ta grâce, ô mon Dieu, ô mon roi. Toi qui sais que je suis précieux. Alléluia. Alléluia.
Qui accepte ce qu'il est précieux devant Dieu. Et
je vois des personnes qui n'acceptent pas d'être précieuses. Ah, la première. Acceptons que nous sommes précieuses comme personnes devant Dieu et déclarons que nous sommes précieux devant Dieu. Disons aux gens que nous sommes précieux parce que c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Amen. Et à cause de ça, quand tu vas commencer à te voir précieux, le Seigneur va prendre ta défense. Il va créer la voie de sortie là où toi tu ne vois rien comme voie. Après tout, le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens qu'il n'y a aucune tentation qui nous est venue qui soit au-delà de nos forces. Parce qu'à chaque tentation, il fera quoi? Il fera quoi? Pardon? Il mettrait une porte de sortie. Est-ce que tout ça, Dieu s'amuse à le dire alors qu'il sait que c'est impossible? C'est impossible. À moins que nous ne sachions pas qui est le Dieu que nous servons, qui est le Dieu que nous adorons. Je vois nos choristes ici, je vous félicite. Mais peut-être il faut attendre que Dieu vous félicite. Vous voyez les gens ici qui chantent ici. Ils chantent, ils ferment les yeux. Vous les voyez mouiller tout le corps. Tout ça, vous le faites pour rien. Vous ne le faites pour rien. Non, il y a un Dieu que nous acceptons d'adorer et de glorifier et qui fait que nous puissions accepter tout ce qui va arriver. Est-ce que vous comprenez? Que je puisse suer, je ne m'en fous même pas parce qu'il y a Dieu que j'adore. Ce Dieu-là, il va accepter que ça se passe comme si de rien n'était. Non, c'est un Dieu qui veut que nous puissions nous reconsidérer pour que nous puissions reconsidérer aussi notre identité. Nous ne sommes pas ce que nous croyons être, nous sommes ce que Dieu croit que nous sommes. Et lorsque nous allons accepter ça, ça va changer notre vie parce que nous allons nous reconsidérer dans toutes les circonstances, dans tous les moments qui nous arrivent dans la vie. Nous allons dire, Dieu est au contrôle. Et c'est lui qui a dit, un parent, une mère peut oublier son enfant, mais moi, est-ce que je le peux? Il a dit d'ailleurs que moi j'ai inscrit votre nom dans la paume de ma main. Est-ce qu'il y a une mère qui a déjà inscrit le nom de son enfant dans la paume de sa main? Vous connaissez ce qu'on appelle le tatouage? Vous avez vu ce qui se tatoue? Même les femmes se tatouent malheureusement. Est-ce que vous avez vu le tatouage d'une femme qui écrit le nom de tous ses enfants sur son corps? Mais Dieu accepte ça pour toi parce que tu es très précieux à ses yeux. Commençons à nous regarder comme Dieu nous regarde parce qu'il nous aime. Il nous aime parce que nous sommes précieux et il va tout faire, il va tout donner pour nous. Malgré les circonstances, il va tout faire. Que les M23 viennent pour en avoir pour leur compte, parce que nous sommes des dieux. Amen. Amen. Laissez les gens vous toucher. Ils touchent la prunelle de l'œil de Dieu. Mais il y a une autre interprétation. Qui vous touche, touche la prunelle de son œil. Qui, oui, c'est toi qui fais les Français ici. Ça peut être le son œil là. Ça peut être soit l'œil de Dieu qui est à notre faveur, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh, ce n'est pas ça. Si c'est l'œil de Dieu, c'est à notre faveur, n'est-ce pas? Il me touche, il touche l'œil de Dieu. C'est à ma faveur. Il pense me toucher, mais il est en train de provoquer Dieu. Il doit attendre la réaction de Dieu. Et ce n'est pas une réaction facile. Alors, le sonnet, ça peut être aussi l'œil de la personne même qui me touche. C'est en faveur de qui? C'est en faveur de qui? Moi, je suis protégé. Il me touche, oui. Il pense qu'il me touche, mais il touche l'œil de Dieu. Et si ça rate dans l'œil de Dieu, il touche dans son propre œil. Alors, qui souffre? Qui souffre? Moi, je pense que je souffre. Mais en réalité, c'est lui qui va souffrir. C'est celui-là qui me provoque. Amen. Amen. Tout simplement parce que Dieu m'aime. Atatengeneza njia, mahali pasipokuwa na njia. Amen. Alors, demain, nous allons parler de la deuxième chose qu'il faut croire. La première chose, j'ai dit, il faut croire en l'amour de Dieu. Cet amour que Dieu nous donne. Un amour qui est hors du commun. Un amour surnaturel. Un amour qui nous valorise. Un amour qui nous rend très précieux. Commençons. Croire en cet amour-là, c'est regarder comme Dieu me voit. Parce que c'est à cause de mon état précieux que Dieu m'aime. Mais je dois m'aimer. Si Dieu m'aime parce que je suis précieux, pourquoi moi je ne peux pas m'aimer? Vous êtes bien parce que Dieu vous aime. C'est comme ça qu'il vous a créé tel que vous êtes. Amen. Alors nous devons nous aimer. Dieu nous aime. Et il n'y a plus rien qui peut empêcher que Dieu m'aime parce que je suis très précieux. Atamina kwaye. Usiseme mie waivi. Ile waivi ni ya huku chini. Ni ya macho ya huku chini. Mais dans les yeux de Dieu, je ne suis pas rien. Je ne suis pas ce que je considère que je suis. Je suis ce que je ne peux pas imaginer que je suis parce que mon identité dans l'amour de Dieu, je ne sais pas décrire. Amen. C'est un amour indescriptible et je dois adhérer à ça. Amen. Vous acceptez? Vous acceptez cet amour? Ça, c'est une chose. Vous acceptez de croire en cet amour? Ça, c'est une deuxième chose. Vous acceptez de vous regarder comme Dieu vous regarde dans cet amour? Ça, c'est une troisième chose. Vous acceptez de vous déclarer comme étant ce que Dieu vous déclare être dans cet amour? Alors, à cause de ça, je vais vous baptiser. Que le Seigneur bénisse sa parole pour nous.
Gloire au Seigneur. Amen. Je pense que nous avons tous été bénis par le message de cet après-midi. Et nous disons que le Seigneur bénisse Pasteur Joshua et qu'il vous renouvelle encore. Amen. Oui, j'aimerais savoir s'il y a des questions au milieu de nous. Nous pouvons prendre deux ou trois questions, s'il y en a. Y a-t-il des questions au milieu de nous? Est-ce qu'on peut aider à donner le micro à papa? Des questions? Bienvenue, papa.
Ce n'est pas une question comme telle, mais c'est un court témoignage sur le message que le pasteur est en train de donner sur le parler en langue. Non, avant mon baptême, j'étais déjà converti. J'ai lu un livre d'un écrivain qui disait que on parle en langue après avoir été baptisé. Alors je me disais, quand je serai baptisé, dans l'eau, je vais parler en langue. Alors le jour de mon baptême, je m'attendais à parler en langue immédiatement. Et malheureusement, rien n'est arrivé. On me baptise, je quitte l'eau, je ne parle pas en langue. J'avais une mauvaise connaissance de la langue ce jour-là, le jour où j'étais baptisé. Alors, je suis en train de bénir le Seigneur parce qu'il y a des faux enseignements que nous devons bannir dans notre vie, nous bannir dans l'Église. Mais je regrette que nous soyons une minorité de gens parce que c'est autour de l'eau spirituelle qu'il y a beaucoup de fausseté. Beaucoup de fausseté. Et je souhaiterais que ce message soit d'être donné ici parce que les gens viennent souvent le dimanche, que vous ayez l'occasion de parler. Parce qu'il y a beaucoup de faux enseignements. Il y a une prière à Metanoia, il y a des enfants, un groupe d'enfants qui prient à Metanoia. Tous, vous entendez tout le monde parler la langue, tout le monde là. Même, je dis aux enfants, je dis, mais vous venez prier, demander à Dieu, mais vous venez seulement parler la langue et vous sortez, vous dites que vous avez prié. Alors c'est seulement un sujet de remerciement pour le message qui est en train d'être donné pour écarter dans nos vies, dans notre foi, de faux enseignements. Que Dieu vous bénisse.
Amen. Il y a une autre question. Papa au fond.
Bonsoir à tous.
Bonsoir.
J'ai une petite question. J'ai suivi les enseignements auprès du pasteur Joshua. Il nous a parlé de l'amour de Dieu. À parler de l'amour, tout ce que je sais, c'est que quand quelqu'un t'aime, c'est qu'il t'a pardonné aussi. Sur la croix, il a dit, tout est pardonné, tout est accompli. Alors, le tout est accompli là, tout est pardonné, ne se manifeste pas dans le quotidien parce que nous continuons à souffrir, nous continuons à mourir, pourtant, il nous a déjà pardonné. Le pardon là vise quoi réellement? Merci.
Merci, bien-aimé, pour la question. Il y a une question. Bienvenue, papa.
Je reviens sur un élément. Je me rappelle que le pasteur n'avait pas touché ça. C'est dans 1 Corinthiens 12, où il est écrit, je crois, au parti du 6e verset. Il y a diversité des dons, diversité des ministères, diversité d'opérations. Le pasteur a parlé des dons, des ministères, mais il n'a pas dit quelque chose sur les opérations. Il voulait qu'il dise un mot là-dessus.
Merci. Merci pour les deux questions. Et je pense que c'est bon pour les questions. S'il vous plaît, pasteur Caribou, pour répondre aux questions.
Ok, merci. Il est vrai que ce que Kiwi vient de dire montre qu'il y a des personnes qui sont bénies. Mais comme le temps est court, on n'a pas la possibilité de dire aux gens qu'est-ce qui vous a béni. Peut-être on pourra avoir le temps de les demander demain à la fin. Demain, c'est vendredi. Parce que demain, nous clôturons avec les séances de l'après-midi. Et nous allons continuer samedi avec les séances de l'avant-midi, le matin. Peut-être on aura le temps de demander à ceux-là qui ont participé depuis le début de partager avec nous les bénédictions. Alors, le frère dit, à la croix, la Bible a dit, tout est accompli. N'est-ce pas? Et il considère qu'en disant tout est accompli, c'est le pardon, c'est le bonheur, c'est la suppression de la souffrance et consort. Alors pourquoi le tout est accompli ne se manifeste pas dans le quotidien des humains et même des chrétiens? C'est ça la question, je crois. Alors la parole dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. En fait, dans tout ça, si vous comprenez bien, même les enseignements que nous avons donnés, la manière dont ça c'est en train de se passer, ça voudrait que nous puissions aller d'un niveau à l'autre. Si vous attendez qu'au niveau 1, vous puissiez avoir toutes les grâces du niveau 4, ça ne viendra pas. Si nous sommes paresseux, de manière à ce que le Seigneur vous demande de monter d'escalier, vous restez là où vous êtes, les réalités de l'escalier 2, ça ne va pas apparaître dans votre vie. Alors, il y a des choses qui nous sont accessibles seulement lorsque nous nous sommes élevés du niveau spirituel. Ça dépend du niveau de maturité. Amen. Amen. Quand la Bible dit « Réjouissez-vous tous les jours », et je le répète, « Réjouissez-vous », est-ce que c'est vrai ou ce n'est pas vrai? Est-ce que les chrétiens se réjouissent tous? Vous pouvez rencontrer un chrétien qui, lui, il est à un niveau où, même si la souffrance est là, vous allez constater qu'il n'est pas agité comme tout le monde. Parce qu'il est à un niveau qui le protège. Alors, en bref, je vais dire, peut-être ça peut demander que nous puissions nous étendre là-dessus, peut-être en dehors de ce cadre, parce qu'ici, nous courons derrière le temps. Mais je vais dire tout simplement que tout dépend du niveau spirituel auquel quelqu'un se trouve, parce qu'il y a une compréhension que nous avons selon les niveaux de maturité que nous avons atteints. Tout est accompli, oui. Mais il reste que chacun de nous s'approprie
les éléments qui se trouvent dans les tout niveau après niveau. Amen. Si vous êtes au niveau où vous ne pouvez pas accéder à ce qui est au niveau 2, ne vous en faites pas, ça ne va pas venir. Il faut vous disposer devant Dieu pour que Dieu vous amène au niveau où vous pouvez être au bénéfice de ce qu'il a dit là. Dans les tout, il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas savoir détaillées ici. Et lorsque nous disons que ça ne se réalise pas, ce n'est pas de la faute de Dieu. Amen. Après tout, devant Dieu, nous n'allons pas le condamner. Il n'y a personne qui pourra condamner Dieu. Même les jours là, nous qui nous posons la question de dire, mais pourquoi tout n'est pas accompli dans notre quotidien? Ces jours-là, nous allons nous prosterner devant Dieu et nous allons dire, Seigneur, tes jugements sont comment? Sont justes. Tu étais juste en acceptant que je puisse vivre tel que je vivais selon le niveau où j'étais, j'avais accepté de m'élever. Donc, il y a d'autres choses qui vont venir parce que nous avons accepté de marcher avec Dieu. Le pas à pas avec Dieu va intégrer dans nos vies des choses que nous n'avions jamais expérimentées avant. Alors, le frère demande, on parle de diversité d'opérations, pourquoi on n'a pas parlé des opérations? En tout cas, on n'a pas prévu d'en parler. Peut-être il faudra que nous puissions nous préparer davantage pour parler des opérations. Merci beaucoup et que le Seigneur nous bénisse.
Amen. Merci, pasteur.